Alors, nous voici rendus à la section des 10 étapes que je veux vous démontrer pour présenter vos services avec l'objectif d'inscrire une propriété. Donc, c'est en 10 étapes, bien entendu. Si vous voulez réduire à 5 étapes, vous aurez le loisir de le faire. Donc, c'est une façon pour moi d'arriver dans les détails de la prise d'inscription en 10 étapes. Première chose, il y a une entrée en matière. Donc, on arrive dans la propriété. Alors, il y a les salutations courantes. Faites attention, dans les salutations, parfois, il y a des courtiers immobiliers qui font du blablabla, blablabla, le beau temps. Vous avez un beau jardin, par exemple, un beau miroir, un beau garde-robe. Oui, j'exagère, je le sais. Mais trop de blablabla, ça fait que, bon, ça fait l'air de genre, je sais pas quoi dire, puis je me sens pas très bien, ou je sais pas comment me présenter, je sais pas comment tourner à gauche puis à droite. Donc, gardez avec confiance ou restez positionné dans la confiance quand vous entrez dans la propriété, dans votre introduction. Donc, moi, mon petit truc, c'est en entrant dans la propriété, tout de suite, cherche la cuisine. À moins d'avoir une immense propriété, puis on voit pas la cuisine tout de suite, bon, ben, on pourra demander où est la cuisine, ou on aura peut-être une façon de voir comment se positionner pour se rendre à la cuisine, parce que dans la première étape, entrer en matière, il faut trouver, OK, le moyen de se rendre à la cuisine pour déposer vos choses. Donc, en entrant, les salutations, pas trop de blablabla, de fla-fla-fla pour avoir de l'air de je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Et pour y arriver, tout simplement demander ou prendre l'initiative sans nécessairement demander, OK, de vous rendre à la cuisine avec votre valise et déposer votre manteau, par exemple. Et en prenant l'initiative d'y aller, vous pouvez demander à ce moment-là à votre client si vous pouvez vous rendre à la cuisine, mais vous le faites en même temps. Donc, vous demandez, mais vous le faites en même temps pour venir déposer votre valise, votre manteau et votre dossier. Donc, en arrivant dans la cuisine, vous déposez votre dossier, vous déposez votre valise. Petite parenthèse, ça a l'air cucu ce que je vais vous dire là, mais ne déposez jamais une valise sur un meuble de votre client. Ça pourrait être très désagréable si vous brisez ou graffinez le meuble. Bon, je ferme la parenthèse tout de suite. C'est parce que ça m'est déjà arrivé puis c'était vraiment pas une bonne expérience. Alors donc, vous déposez le dossier. Vous pourriez peut-être lui remettre un petit prospectus dans ses mains qui vous décrit. Et pourquoi vous dirigez dans la cuisine, vous pensez, c'est parce que votre objectif, après la visite de la propriété, c'est de revenir à la cuisine. Dites-vous bien que durant un rendez-vous, pour un rendez-vous, si vous arrivez ou si vous y arrivez, OK, finalement, après la visite dans la cuisine, puis que vous vous installez confortablement, je m'excuse, à la table de cuisine, c'est un très bon signe. Oui, il y a certains rendez-vous où tout va être prévu pour vous installer à la cuisine, mais il y a d'autres rendez-vous où le client va penser que vous passez juste pour visiter la propriété ou pour faire une évaluation. De là, je vous reviens à l'importance, quand vous confirmez le rendez-vous, en définissant son profil, de venir lui présenter brièvement c'est quoi votre intention. Hein? Vous vous rappelez, tantôt, je vous ai dit, je vais faire telle chose, je vais enchaîner avec telle chose, je vais prendre soin de vous expliquer telle chose et finalement, je vais vous présenter telle chose. Le client a déjà une idée. Vous pourriez même dire, je vais avoir besoin de près 20 à 45 minutes. Est-ce que ça vous convient de préparer d'avance votre client à votre présentation? Sans la détailler, juste la faire brièvement. Donc, si vous demandez, vous prenez l'initiative d'aller à la cuisine pour déposer vos choses, votre client va avoir déjà été préparé mentalement. À partir du moment où, les choses sont installées dans la cuisine, on est toujours dans l'entrée en matière, prenez le contrôle sur comment vous voulez visiter la propriété. Essayez du moins de prendre le contrôle. Ne laissez pas votre client vendeur contrôler la visite de la propriété. Ne pas être désagréable ou déplacé, c'est important, mais vous pouvez prendre le contrôle. D'abord, ça va démontrer une assurance par rapport à votre position. Et une façon de le faire, vous avez juste à indiquer à votre client par où vous aimeriez commencer. Moi, j'aimais bien commencer par le sous-sol pour finir au rez-de-chaussée si c'était un bungalow. Pourquoi? Parce que au rez-de-chaussée, je finissais toujours par... Quelle pièce, pensez-vous? La cuisine, bien entendu. Et s'il y a un deuxième étage, comme par exemple un cottage, OK, alors le sous-sol, le deuxième étage, et je finissais toujours par le rez-de-chaussée. J'allais dire que c'est stratégique, ça a l'air un petit détail, mais ça m'a souvent rendu service pour me rendre à la cuisine, parce qu'après la visite, mon objectif, c'était de me rendre à la cuisine. Alors donc, ça c'est des petits trucs. Apportez-vous une fiche de travail, OK, avec un crayon où vous allez pouvoir prendre des notes justement durant votre visite. Alors ça c'était l'entrée en matière. Deuxième étape, justement, la visite de la propriété. Donc, évitez encore une fois, je répète, moi c'est Albert Simon qui m'a appris ça, les surplus, les flafla, les blabla, vous faire demander des questions sur l'histoire de son bébé, l'histoire de son mariage ou les photos que vous voyez sur le mur. Et je vous parle en connaissance de cause parce que, bon, moi, je suis une enthousiaste, hein, je suis une sociable, j'avais une tendance parce que, sincèrement, j'étais toujours fascinée à l'histoire des gens. Donc, peut-être rendu à l'étape où vous avez eu la relation puis l'engagement de votre client, il y aurait peut-être le temps de pouvoir plus socialiser, si vous voulez, mais pas avant, à mon avis, de mon humble expérience, mais aussi de l'avis de plusieurs experts et de plusieurs leaders dans l'immobilier et de formateurs, par exemple. Donc, évitez le surplus de flatterie, de vouloir plaire absolument par pas les conseils, mais par exemple, les qualités que vous voulez donner à la maison, à madame, à monsieur. Si, par exemple, il y a un élément de la maison que vous visitez puis que vous pensez que ça peut nuire à la vente de la propriété ou que ça peut avantager à la vente de la propriété, parlez-en comme si vous étiez un acheteur et dites à votre client que vous exprimez l'avantage et le désavantage comme si un acheteur pourrait l'exprimer. Donc, vous pouvez dire un acheteur qui va voir cette problématique pourrait peut-être voir ça d'un autre œil, ou un acheteur qui voit cet avantage va être très encouragé ou va voir un avantage certain du fait que vous avez amélioré ou rénové. Donc, toujours parler comme si un acheteur viendrait visiter la maison. Essayez de créer des silences inconfortables. C'est une autre technique que j'ai apprise, je pense que c'est avec Albert Simon. Il faut que je vous dise qu'Albert Simon, ça a été un de mes formateurs que sans vouloir faire de préférence, mais que j'ai énormément suivi à l'époque. Le propriétaire, il aime bien jaser parce qu'on ne se connaît pas encore beaucoup. Puis jaser comme ça pendant qu'on visite la propriété, on rentre dans son intimité, dans sa proximité. Fait que souvent, jaser pour dire des choses importantes, mais des fois, c'est jaser pour ne rien dire, ça rend plus confortable la visite de la propriété. Donc, vous pouvez profiter de cette occasion pour justement maintenir les silences pour arriver justement à influencer votre client vendeur à mieux vous écouter rendu à la table de cuisine ou dans la pièce de la cuisine. Donc, si par exemple le propriétaire vous pose plus de questions justement parce que vous avez créé des silences, donc quand vous visitez la propriété, vous n'êtes pas obligé de commencer à emmener plein de commentaires sur chaque pièce, sur chaque bibelot, sur chaque meuble, sur, peu importe, vous pouvez comme garder le silence. Si vous gardez le silence, ça veut dire que vous allez laisser la place à votre client vendeur pour qu'il puisse poser des questions. Et c'est important, à ce moment-là, de pas nécessairement répondre aux questions parce que vous allez justement prendre soin de venir y répondre où vous pensez, à la table de cuisine. Donc, vous pouvez lui dire et en profiter encore là pour le préparer mentalement à votre présentation et à votre relation, celle que vous allez entreprendre durant votre présentation, en lui disant, si vous me le permettez, monsieur, madame le client, parce que là, il vient de vous poser une question. Alors, si vous me le permettez, monsieur, madame le client, je vais juste terminer de compléter les informations sur la visite de la propriété et toutes ces informations que je vais avoir besoin d'ailleurs pour vous trouver un acheteur, et je vais être en mesure de répondre à votre question juste après la visite. D'ailleurs, il y a plusieurs clients, propriétaires, vendeurs comme vous qui me posent souvent ce genre de questions qui sont très pertinentes, très importantes et que je vais prendre soin de vous répondre dans pas longtemps quand j'aurai terminé la visite. D'ailleurs, sachez que j'ai préparé un document très pertinent de référence qui va pouvoir répondre à vos questions. Ça vous va? On peut continuer la visite? Avez-vous compris? Le principe et tout ça, c'est pas une technique que je suis en train de vous apprendre là. Oui, c'est un principe, c'est une méthode, mais c'est sincère, c'est réaliste. Vous laissez la place à la communication parce que, dans le fond, vous laissez exprimer votre propriétaire en créant des silences inconfortables. Il vous pose des questions, vous pouvez pas le laisser en attente, puis on n'est pas pour répondre aux questions puis faire notre présentation, OK, entre le sous-sol et le deuxième étage. Il y a toujours un endroit, un moment, OK, approprié durant la visite, durant la présentation. Ici, j'ai une parenthèse importante, très importante. Pour chacune des étapes que je suis en train de vous définir, ce qui est le plus important aussi, c'est de respecter les étapes que vous avez définies pour faire votre présentation. Mais en même temps, autant que c'est important, autant que ça peut être difficile de respecter nos étapes. Mais encore une fois, c'est à force de le faire. Des fois, tu vas le faire moins bien. D'autres fois, on va le faire comme tout croche, mais c'est à force de le faire, à force de le faire, de le répéter, de faire plusieurs présentations, qu'on le fasse bien ou qu'on le fasse moins bien, c'est juste entre tes deux oreilles que ça se passe. Le plus important, c'est que tu fasses quelque chose, que vous fassiez quelque chose, OK, pour vous améliorer. Donc, je reviens à un principe de respecter les étapes. Et c'est pas juste dans l'immobilier, dans le monde de la vente, quand on fait une présentation, si on respecte nos étapes, ça vous permet de garder le contrôle sur votre présentation. Et là, je parle de contrôle, pas pour contrôler votre client, c'est pas ça que je veux dire, mais contrôler votre présentation avec assurance pour justement faire une démonstration que vous savez où ce que vous allez, vous savez comment faire, puis que vous êtes un professionnel qui fait une démonstration que vous êtes en mesure d'encadrer, d'encadrer, OK, le processus de faire la mise en marché de sa propriété. Donc, c'est la raison pourquoi je vais vous demander de pratiquer justement chaque étape. Et croyez-moi, parfois, ça va être votre client qui va, sans le vouloir, sans mauvaise intention, parce que justement, peut-être qu'il est moins préparé à ce que vous entreprenez de faire, va chercher à vous faire sauter les étapes. Je reviens toujours à l'importance. Mieux vous préparez votre client à qu'est-ce que vous allez faire, plus votre client va vous laisser contrôler votre présentation. C'est vraiment important de comprendre ce principe. Ensuite, troisième étape, confirmer l'objectif de la rencontre. Donc, pour confirmer l'objectif, c'est de revenir finalement quand vous avez pris le rendez-vous et que vous avez préqualifié au téléphone. Vous vous souvenez? Attente, profil, motivation. Donc, vous pouvez faire un bref, un court retour, OK, sur votre préqualification. Vous pouvez comme reformuler les propos de la conversation lors de la prise de rendez-vous, encore là, très brièvement, juste pour être certain qu'il n'y a pas eu d'autres idées, d'autres motivations ou d'autres réflexions entre le rendez-vous et la prise de rendez-vous. Et vous pouvez commencer tout de suite rapidement à introduire justement la description de votre démarche pour la présentation. Et c'est dans la quatrième étape que vous allez, avant de décrire votre présentation, annoncer votre position. Ça, c'est une technique que j'ai appris de Mike Furry et j'ai intégré cette technique de Mike Furry dans ma présentation, qui est celle d'annoncer votre position. Dans le fond, c'est de venir dire à votre client comment vous allez vous positionner, peu importe qu'est-ce qui va se décider durant la présentation. Par exemple, vous pouvez dire à votre client, et j'aime bien aussi pour rajouter, quand vous donnez toujours des options. Alors, quand on donne des options à notre client, alors moi, par exemple, comme consommateur, si on me donne juste une option, puis je suis confronté à choisir juste une option, si cette option-là est plus ou moins intéressante, je suis plus ou moins confortable. Donc, si j'ai une option ou une autre option, ben au moins, ça va être beaucoup plus facile de prendre ma décision. Donc, trois options, monsieur, madame, le client, qui pourraient se produire ce soir ou aujourd'hui, peu importe. Alors, premièrement, vous pourriez avoir l'opportunité, premièrement, de me donner l'inscription pour, justement, mettre en marché votre propriété. Ça, c'est la première option. Deuxième chose qui pourrait arriver, c'est vous pourriez aussi décider de ne pas me donner l'inscription. Ou troisième chose, je pourrais, moi, décider de ne pas prendre votre propriété à vendre. Donc, trois options. La première, vous aurez probablement l'opportunité de me donner votre inscription, votre maison à vendre. Et bon, je pourrais vous expliquer qu'est-ce que j'entends par opportunité. Deuxième option, vous pourriez décider de ne pas me donner l'inscription, mais je pourrais aussi, troisième option, décider de ne pas prendre votre inscription. Sachez, monsieur, madame, le client, vous enchaînez, que n'importe lequel de ces trois scénarios peut être respectable et que mon intention ici est surtout de vous donner, comme je vous l'ai déjà mentionné, la juste information, de vous dire les vraies affaires et surtout de venir vérifier si votre objectif de vente, je peux le réaliser, si je peux vous aider à le réaliser, incluant bien entendu mes honoraires de courtage. Donc, ça met en place, ça vous détend, hein, vous vous sentez peut-être un petit peu plus détaché, votre client aussi, on se met comme sur la même longueur d'onde. Hein? Peu importe ce qui va arriver, on va le respecter, puis on se ramène sur l'objectif. Vous vous ramenez à votre objectif de venir vérifier parce qu'il est possible, on s'entend, il est possible que vous décidiez de ne pas vouloir la prendre, OK? Et il est possible que c'est impossible de pouvoir prendre l'inscription pour toutes sortes de raisons techniques, financières ou peu importe. On s'entend, c'est la quatrième étape. La cinquième étape, okay, de présentation, c'est de venir réaffirmer, okay, et de décrire justement les étapes de votre présentation, mais là qui touche directement justement la mise en marché, l'évaluation. Bon, il y a des gens ici qui vont me dire, il y a des courtiers où on échange entre professionnels, dire, ben, c'est comme un peu répété, redondant. C'est vrai, vous pourriez sauter l'étape, sauf que le client a besoin souvent de se faire rappeler où on est rendu dans notre présentation ou dans notre relation. Donc, dépendamment comment vous allez vous y prendre, dépendamment comment est-ce que vous ressentez la relation où on est rendu, vous pouvez aussi vous ajuster. Mais si, au besoin, vous faites affaire avec un type de personnalité qui est perfectionniste ou qui est social ou que, bon, peu importe, a besoin de se faire redire les choses ou de se faire positionner par rapport à la présentation, ben des fois, il faut plus répéter ce que vous avez l'intention de faire. Donc, cinquième étape, décrire le reste. Dans le fond, cinquième étape, c'est de décrire le reste de votre présentation. On est rendu comme en milieu de présentation. Alors, monsieur, madame le client, comme je vous l'ai déjà mentionné d'ailleurs au téléphone avant de prendre le rendez-vous, voici ce que je vous propose pour notre rencontre ce soir. Dans un premier temps, je vais faire une mise au point sur le marché de la revente actuellement. C'est ma façon à moi de faire une démonstration de mon expertise et surtout pour mieux vous situer en tant que propriétaire-vendeur dans le marché de la revente actuellement. Tout de suite après, monsieur, madame le client, je vais émettre, j'ai fait une étude, on va regarder ensemble si j'ai besoin d'ajuster certaines choses par rapport à la visite que je viens de faire sur votre propriété. Je vais émettre une opinion sur la valeur marchande de votre propriété avec une stratégie de prix demandée pour être en mesure de commercialiser votre propriété. Je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que j'entends par commercialiser votre propriété. Ensuite, rapidement, on va compléter une chose très importante, peut-être plus importante encore pour vous, venir vérifier quel va en être le résultat. On va calculer, okay, le profit net de la maison vendue pour voir si on arrive à vos objectifs, justement incluant mes honoraires de courtage. Et finalement, je vais vous présenter une méthode, je vais vous présenter mon programme, mon modèle d'affaires pour mettre en marché, pour commercialiser étape par étape votre propriété dans le but de vous trouver un acheteur motivé, qualifié, sérieux. Et vous pouvez tout de suite terminer à lui demander s'il a des questions. Alors, je répète pas parce que vous allez pouvoir faire comme en arrière et j'ai peur de manquer de temps. Donc, voyez-vous, on a mis en position et je vous le dis, moi, je l'ai fait tellement de fois et c'est quelque chose qui fait tellement la différence quand on met en position. Fait que s'il y a des choses à laquelle il ne s'attend pas, s'il y a des choses à laquelle il ne s'imaginait pas ou s'il y a des choses que il pense ne pas avoir besoin, besoin. Ou si, avant même de lui présenter, okay, le reste des étapes, il y avait déjà un questionnement, vous venez déjà de répondre sans qu'il soit obligé de poser la question à qu'est-ce qui va s'ensuivre de la présentation. À chaque fois, à partir de maintenant, à partir de la cinquième étape que vous avez décrit le reste des étapes de votre présentation, à chaque étape, vous devriez avoir une espèce d'automatisme, un réflexe de toujours venir vérifier si votre client est correct, se sent bien, est-ce qu'il a des questions, est-ce que vous pouvez répondre à des questions, et c'est une façon de contrôler la présentation. Donc, à chaque étape, venez vérifier s'il a des questions, s'il se sent bien, si vous pouvez répondre à des questions, et cette étape de venir vérifier avant de passer à l'autre étape, c'est une façon de commencer à tester si votre client tombe dans une position de vouloir s'engager avec vous. Parce que durant la présentation, à un moment donné, vous allez devoir déterminer si le client est toujours avec vous et s'il y a, on commence à avoir une intention de vouloir s'engager avec vous. Donc, c'est la raison pourquoi je vous encourage à chaque étape, les prochaines étapes, de venir vérifier si votre client a des questions. Et quand on lui demande s'il y a des questions, c'est de venir provoquer justement les questions pour voir s'il est en train de s'engager avec vous. Alors, c'est important de venir faire, de venir développer, si vous voulez, ce réflexe. Sixième étape, alors, dans le fond, c'est pas compliqué, hein? On vient faire ce qu'on a décrit précédemment, hein? Alors, on fait une mise au point sur le marché de la revente. Et c'est ici, les amis, que vous devez faire une preuve de votre expertise. C'est ici que vous devez faire ce que j'appelle le show. C'est ici que, sachez, votre client est déjà très formé, très informé, surinformé, peu importe le type de client que vous avez devant vous, à cause du pouvoir qu'il y a sur le savoir, avant de vous rencontrer, il y a déjà beaucoup d'informations, il s'est déjà renseigné, on l'a déjà informé, il a déjà eu une expérience. Donc, à votre façon de vous démarquer, de venir apporter de la valeur à qu'est-ce que vous offrez comme service. Et là, je suis pas en train de dire... offrir vos services, comment vous allez vous y prendre, plus comme de présenter la façon à vous de voir, okay, le marché de la revente, avec exemple des rapports, des statistiques, parler des prévisions, parler des cycles immobiliers, bon, est-ce qu'il y a un temps pour vendre, est-ce qu'il y a un temps pour acheter, converser, établir justement la relation, positionner votre client par rapport au marché de la revente, montrer des articles d'actualité par exemple, même raconter des cas vécus par rapport à qu'est-ce qu'on vit dans le marché de la revente. Donc ici, c'est un moment quand même assez important parce que c'est ici que vous êtes en train de faire vos preuves, que vous êtes en train de faire une démonstration, que vous êtes l'expert et que vous connaissez votre affaire. C'est sûr que pour les nouveaux, parler du marché de la revente, quand on fait juste commencer, bon, on va avoir à se pratiquer à parler aussi facilement du marché de la revente pour faire une bonne impression. Mais encore une fois, fais-les bien, fais-les moins bien. OK, c'est juste dans ta tête que ça se passe si tu penses que tu le fais mal. Mais à force de le faire, de le répéter, fais place à l'amélioration. L'important, c'est de faire quoi? Quelque chose passe à l'action. Faut pas t'arrêter pour ça. OK? Trempe-toi, saute, vas-y. Et vous allez voir, c'est 10, 15, 20, sans présentation, puis vous allez devenir un expert dans votre façon de présenter votre expertise. Ensuite, septième étape, on arrive à la valeur de la propriété. Donc, être capable de vulgariser l'information. Il connaît la chanson. Il sait comment ça marche, mais il pense savoir comment ça marche. C'est selon son interprétation, ce qu'il a lu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris. Maintenant, venez vulgariser. Venez vous informer ou essayer de percevoir comment est-ce qu'il a compris, hein, ou comment est-ce qu'il voit, lui, l'évaluation d'une propriété. Comment est-ce qu'il l'interprète, ou juste lui de poser la question, hein, sur quoi on peut se baser pour évaluer votre propriété. Est-ce que vous avez déjà fait des démarches? Est-ce qu'on vous a déjà dit? Juste pour venir voir, vous préparer à... Et ensuite, venir vulgariser l'information et en faisant démontrer, bon, les choses importantes qui vont venir influencer la valeur. On le sait, hein, j'ai pas un cours d'évaluation à vous faire ici, c'est pas dans mon dans mon chaîne de formation, mais on revient sur le secteur, on revient sur le timing, on revient sur la compétition, veut dire les autres maisons à vendre, on revient sur les conditions actuelles hein, du marché, et est-ce qu'on est dans un marché d'acheteurs, dans un marché de vendeurs, et on revient sur la stratégie de prix. Alors, d'être capable de venir vulgariser avec des images, des mots, des exemples, donc c'est pas juste d'arriver puis de dire, ben votre maison, là, elle devrait se vendre tant. Justement, en parlant de énoncer le prix de la maison ou la valeur ou le diagnostic, je parle, que moi, le terme que j'utilise, là, faites pas ça devant vos clients, si ça vous amuse, allez-y. Encore une fois, de venir présenter une évaluation ou une stratégie de prix en offrant des options. Alors, vous pouvez avoir une feuille très simple, 8,5-11, vous faites trois colonnes et on a ce qu'on appelle le prix « on est pressé ». Dans le milieu, le prix réaliste, puis complètement de l'autre côté, le prix optimal. Et c'est une façon de présenter une stratégie de prix qui vient vulgariser, qui vient positionner votre client, puis on sort des grands principes, des grands concepts qui, finalement, est plus difficile pour le client de se voir. Fait que quand on dit « on est pressé », bon, on peut présenter le prix demandé ou la valeur de la propriété dans des situations où il y a une urgence qui est en train de se provoquer. Et ça peut être votre client qui tombe dans l'urgence. Un exemple, on prend la maison à vendre. Le client veut absolument magasiner pour une autre propriété des fois où il vendrait sa maison rapidement, puis ça va plus le rassurer. Il tombe en amour avec une maison. Non seulement il tombe en amour avec une maison, c'est une opportunité, puis c'est moins cher ou moins dispendieux. En plus, les taxes sont moins dispendieuses. L'aménagement, le secteur, tout y est. Là, c'est comme 5 étoiles. On veut pas la manquer. Là, il y a une espèce d'urgence qui se crée. On va vouloir vendre de la maison plus rapidement. C'est pour ça que souvent, on essaye de vendre la maison avant de magasiner pour l'autre propriété. Mais il reste qu'il se retrouve dans une situation où peut-être on va aller dans la case, on est un petit peu plus pressé. Hein? C'est pas de venir montrer on est pressé juste, il y a des gens qui vendent, qui sont pressés parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est pas juste on n'a pas le choix, c'est on est pressé pour d'autres motivations aussi. Alors, c'est d'être capable d'emmener votre présentation dans des exemples de qu'est-ce qui pourrait arriver, de positionner votre client quand vous présentez votre stratégie de prix dans des histoires vécues ou dans des exemples qui pourraient arriver dans l'expérience de votre client. Si on parle de la réalité, bon, on va arriver à un prix plus équilibré, hein, on va arriver plus à sa juste valeur, plus ou moins. Hein, il va y avoir habituellement moins de négociations, je m'excuse. Le délai de vente va être plus raisonnable. C'est une façon de présenter le prix, la réalité, puis vous pouvez autour apporter votre point de vue qui est très personnalisé à vous. Et le prix optimal, où on parle d'un prix qui est plus élevé, qui est légèrement un peu plus que ce que vous pensez au niveau de la valeur. Mais il faut être capable d'expliquer à votre client, dépendamment de la marge de manœuvre, et ici, je ne suis pas pour discuter de la marge de manœuvre, ce n'est pas le but de mon intervention, mais si vous décidez de la prendre un petit peu plus élevée ou plus élevée, ce n'est pas moi qui va dire plus ou moins, mais plus élevée, c'est d'être capable de dire au client, ben ce n'est pas impossible, mais il faut être conscient que ça peut être plus risqué de ne pas la vendre finalement. Il faut être conscient que ça pourrait prendre plus de temps, qu'il va y avoir peut-être plus de négociations et c'est possible, il ne faut pas être surpris. Si je vous reviens après un laps de temps par rapport à l'expérience de la mise en marché, que je vous revienne avec peut-être une révision de prix. Mais être honnête, faire connaître les trois positions. Fait que si votre client se voit dans les trois positions, vous venez de faire un travail excellent parce que d'abord, vous avez été intègre, vous avez été honnête, vous avez été capable de venir démontrer qu'est-ce qui se passe dans la vente d'une maison. Même des gens qui ont déjà vendu vont se revoir dans ces positions et ça va vraiment confirmer que vous connaissez votre affaire et que vous avez de l'expérience. Et pour ceux qui sont nouveaux, okay, vous allez pouvoir finalement être capable aussi de présenter la même stratégie et vous allez pouvoir faire aussi une démonstration parce que vous avez fait une démonstration que c'est souvent comme ça que ça se passe aussi, à savoir de l'urgence à la réalité à l'optimal. Puis, vous laissez réagir votre client par rapport à votre présentation. Donc, on vient de passer une étape qui est OK, vulgariser l'information, présenter une stratégie de prix demandé. Et qu'est-ce qu'on fait avant de passer l'autre étape? Vous souvenez-vous? On demande, OK, à notre client s'il a des questions. On demande à nos clients s'ils ont des questions sur qu'est-ce qu'on vient de, justement, expliquer ou qu'est-ce qu'on vient de présenter. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas répondu aux questions, vous ne sautez pas à l'autre étape. Souvent, après cette étape, OK, le client va s'intéresser à savoir combien, OK, il va avoir net dans ses poches. Bonne nouvelle! C'est la prochaine étape. Vous voyez comment est-ce que les étapes s'enchaînent bien quand c'est bien défini puis que c'est préparé d'avance. Donc, plus souvent qu'autrement, après avoir défini la valeur de la propriété, la prochaine étape ou la prochaine question va être « Bon, ben moi, net dans mes poches, ça va me donner combien? » Sachez que vous devriez être à cette étape, depuis le rendez-vous au téléphone jusqu'à cette étape, vous devriez être capable, OK, de percevoir combien net dans ses poches. Peut-être que vous l'avez même demandé directement, c'est correct aussi, mais peut-être que le client ne... Ça n'a pas donné, OK, qu'on a touché la question où le client vous a carrément dit, moi, net dans mes poches, c'est ça que je veux avoir. C'est des choses qui arrivent. Donc, huitième étape, on arrive vers le plaisir d'inscrire. Huitième étape, bon, on évalue le profit net de la maison vendue, le résultat net de la maison vendue. C'est une étape encore très importante. Moi, je trouve ça malheureux. Je partage avec vous l'expérience que j'ai eue dans le financement hypothécaire parce que, bon, j'ai été 10 ans dans le financement hypothécaire à rencontrer vos clients, acheteurs et vendeurs, et de voir autant de vendeurs pas préparé au résultat net de la maison vendue, au profit net de la maison vendue. Hein, il veut s'acheter une autre propriété, je le rencontre, je lui demande quelle va être la mise de fonds, aucune idée de combien net dans ses poches, puis de combien il va pouvoir disposer pour acheter l'autre propriété. C'est un must. Faites la différence. Prenez le temps d'expliquer, incluant vos honoraires plus TPS, TVQ, combien il va rester net dans ses poches. C'est vraiment à ce moment que vous devez vous positionner et que vous devez vous affirmer pour justement bien encadrer, bien guider votre client. Et quand vous arrivez dans le bas de la page avec le résultat net dans ses poches, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande s'il se sent confortable avec le résultat net et s'il a d'autres questions. Vous n'avez pas, vous, à prendre position. Vous n'avez pas à, genre, ben voyez-vous, on arrive avec votre objectif. Ah, voyez-vous, c'est pas tout à fait, mais laissez votre client s'exprimer à chaque étape. C'est important. Donc, on arrive. Peut-être que vous avez un doute qu'on n'arrive pas à son objectif, mais laissez le client s'exprimer. Alors, on calcule, on arrive au résultat. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous sentez avec le résultat ou qu'est-ce qui vous reste dans vos poches? Et après, vous allez avoir à répondre ou à peut-être reviser ou à peut-être ajuster, OK, au niveau de l'objectif. Vous allez avoir à prendre des décisions. Et là, le travail de collaboration avec votre client va commencer. On s'entend? Des fois, même, vous allez avoir à justifier, OK, pourquoi est-ce que vous demandez des honoraires. Puis c'est là sûrement que les objections vont rentrer par rapport à votre commission, à savoir si elle est négociable. Là, on va avoir à traiter les objections. Donc, si on vous pose la question, justement, est-ce qu'elle est négociable, votre commission? OK, ça se trouve à être une objection, mais avant de répondre à l'objection, gardez donc, si c'est bien fait, hein? Concernant la commission ou la rétribution, c'est dans la prochaine étape de votre présentation que vous allez pouvoir justifier vos honoraires, justement. Voyez-vous comment est-ce que c'est magnifique quand on a déjà défini et présenté, défini la présentation, OK, de ces services. Donc, dans la prochaine étape, vous devez présenter votre programme et selon votre modèle d'affaires. Ici, ça va être très important d'avoir quelque chose de préparé, de professionnel, à la hauteur de ce que vous représentez comme professionnel et de venir définir en listant une tonne, OK, d'actions, d'activités, de listes de choses qui vous représentent pour encadrer le processus de la vente. En partant de qu'est-ce que vous êtes en train de faire présentement, c'est déjà du travail que vous avez commencé sans être obligé d'avoir des honoraires. Donc, juste venir reviser le travail que vous faites maintenant, puis de venir détailler, OK, étape par étape, comment vous allez vous y prendre pour encadrer le processus, pour trouver un acheteur qualifié, motivé, sérieux, quels sont les outils de communication que vous allez utiliser, quelles sont vos ressources professionnelles. Alors, il y a tellement de ressources disponibles à travers vos collègues, votre agence, encore une fois, les ressources de l'OACQ, des organisations. S'il vous plaît, cherchez à vous monter un genre de petit programme. Ça peut être un formulaire 8,5-11, ça peut être un petit prospectus 2 pages, okay, qui vient identifier, par exemple, vos témoignages, qui vient identifier vos expériences. Quelqu'un qui commence, on n'est pas obligé là, d'avoir tant de transactions. C'est sûr que ça aide, là, j'en conviens. Là. Mais vous pouvez avoir une expérience de vie au niveau de l'habitation. Vous pouvez avoir plein de choses que vous allez pouvoir ramasser pour montrer votre prospectus. Alors, si on est nouveau, vous pouvez parler des statistiques, des résultats que votre agence, que vos collègues, que votre organisation arrive à avoir au niveau du secteur, par exemple. Mais présenter un programme parce que, et là je suis formelle, hein, on dirait que je me choque, c'est pas ça que je veux faire, mais c'est tellement important parce que trop de propriétaires vendeurs encore aujourd'hui, et je ne comprends pas, trop de propriétaires vendeurs encore aujourd'hui ne sont pas conscients de la valeur de vos services. Pourquoi pensez-vous? Parce que vous n'êtes d'abord pas convaincu, comme je l'ai expliqué précédemment, et parce que vous ne l'avez pas défini, et pire encore, vous ne l'avez pas présenté. Alors, comment voulez-vous que votre client vendeur soit convaincu de la valeur de vos services si vous ne la présentez pas? Ou si vous dites juste, ben c'est comme ça, hein? Ou bon, on va négocier ça. Si vous voulez, quand on aura une promesse d'achat, ou ben là, je paye de la publicité. Puis là, écoutez, le propriétaire, là, toutes les ressources là, pour pouvoir vendre sa maison, il les a de disponibles. Il y a sûrement des choses que vous avez qu'il ne pourra pas utiliser, que vous allez pouvoir démontrer, plus les outils qu'il a déjà, mais que vous allez vous prendre en charge pour justement réaliser une transaction sans tracas, plus tous les autres avantages distinctifs que vous allez ajouter qui va venir justifier vos honoraires. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir rentrer à l'autre étape, mais avant, on demande, OK, après avoir présenté votre programme, après avoir présenté la liste détaillée de tous les services, les activités, on va lui demander quoi vous pensez. Allez, dites-moi là. Allez, dites-moi là à la voix haute. Alors, qu'est-ce qu'on doit demander avant de passer à la prochaine étape? Avez-vous des questions? Est-ce que j'ai répondu à vos interrogations? Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce que je peux enchaîner? Est-ce que je peux continuer? Alors, la 10e étape, OK, c'est la dernière et c'est celle qui nous permet de conclure parce qu'à chaque étape, on a répondu aux questions. On a comme même traité certaines objections et on a finalement réussi à présenter toute notre présentation. Et c'est ici que je vous invite tout de suite à venir prendre votre contrat de courtage, même avoir l'audace, vous pensez, de commencer à écrire sur le contrat de courtage, que ce ne serait-ce pour lui présenter ou pour lui montrer à quoi ressemble le formulaire de l'engagement. Et si le client dit « Oups, moi, je pas prête à signer tout de suite », on va commencer à traiter les objections. Dans cette formation, on ne pourra pas regarder toutes les sortes d'objections parce qu'on a besoin d'une formation au complet pour parler des objections. Je vais vous présenter comment arriver à traiter psychologiquement une objection. Il va y avoir une autre formation exclusivement pour traiter et répondre aux objections. Donc, commencez à venir vérifier si votre client, on appelle ça les questions test avant de répondre aux objections, s'il est en train de s'engager avec vous. Vous lui avez demandé au rendez-vous de sortir ses titres de propriété. Demandez-lui les titres de propriété. Commencez à prendre des notes dans votre dossier. Alors, s'il n'est pas prêt, il va vous le dire. Vous allez déposer votre crayon, vous allez lui demander s'il y a des questions. À rédiger, par exemple, la déclaration du vendeur, à commencer à noter la description de la propriété. Alors, il y a plein de petites interventions comme ça que vous pouvez commencer à faire pour commencer à conclure, qui va vous permettre de venir saisir si votre client est en train, justement, d'entrer là, dans le processus d'accorder sa confiance pour que vous puissiez prendre le contrat de courtage puis mettre sa maison à vendre. Alors, on a terminé cette étape, 10 étapes pour présenter. Well,
shaking my mind.